Voici les titres du journal.
La constituante valaisanne a entamé ce matin le traitement en première lecture du rapport de sa commission thématique numéro 7. Il traite des autorités cantonales. Nous retrouverons dans un instant Yves Terrani en direct de Sion. Le Grand Conseil vaudois se penchera cet après-midi sur une refonte de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier. Un débat fleuve se profile avec des discussions sur la protection des bâtiments ou encore les fouilles archéologiques. Le budget de la ville de Vevey restera dans le rouge l'année prochaine, mais avec un peu plus de 7 millions de francs, il sera moins déficitaire qu'anticipé par la nouvelle municipalité. Pour augmenter ses revenus, la commune va également investir dans ses bâtiments. La fontaine des marmottes de Zermatt a quitté la station valaisanne depuis maintenant une dizaine de mois, pas pour le plaisir, mais parce qu'il lui fallait passer par la case restauration. C'est un sculpteur vevaisan, Vincent Cellotti, qui s'en est chargé. En basket, le BBC 3 Torrent a vaincu une deuxième fois Helios ce week-end pour accéder au quart de finale de la Coupe de Suisse. Chez les hommes, Martini Basket, pensionnaire de première ligue, reçoit ce soir Fribourg Olympique.
Du soleil pour cet après-midi avant le retour la nuit prochaine d'une dégradation qui sera toujours bien présente demain matin. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Axel et bonjour à tous. La composition du Grand Conseil a occupé ce matin à Sion les membres de la constituante valaisanne et les discussions ont duré avec au final Yves Terrani et le statu quo quant au nombre de députés et de députés suppléants.
Oui, ce sera en effet, du moins au terme de la première lecture, 132 chaque. Les discussions ont été fournies, vous l'avez dit, les interventions nombreuses. Il a fallu ensuite voter sur divers amendements et deux rapports de minorité réclamant pour le premier le passage de 130 à 110 députés et pour le second de 130 à 65 suppléants. Au final, c'est donc en effet le statu quo. Tout ça, pour ça, a d'ailleurs conclu le Montezan Johann Rochel d'Appel Citoyen. Pour lui, il y a visiblement des choses qui seront à jamais immuables dans la Constitution valaisanne. C'est le préambule au nom de Dieu Tout-Puissant et le nombre de députés, nous a-t-il dit, un brin irrité et fataliste durant la pause de 10h30.
Il est vrai, Yves, que les échanges ont concerné pas mal de thématiques.
Et c'est juste, ils ont porté sur des comparaisons intercantonales s'agissant des députés suppléants. Alors je précise au passage qu'actuellement, dans notre pays, seuls les cantons du Jura, de Genève, de Neuchâtel et des Grisons ont aussi un système de suppléance. Le Valais qui propose le nombre de suppléants le plus élevé. Les échanges ont porté aussi sur l'efficacité que permettrait une diminution du nombre de députés de suppléants, sur la représentativité sociale, sur la représentation homme-femme, sur des statistiques nombreuses. Entre autres. Mais les constituants n'ont pas voulu changer de formule. Pour plusieurs d'entre eux, et notamment l'UDC du Haut, Fabian Zurbriggen, le système actuel a fait ses preuves. Il n'y a pas l'heure dans le modifier.
Et de la composition du Parlement, Yves, la constituante est ensuite passée au système d'élection.
Oui, autre chapitre délicat, on y est encore à l'heure où je vous parle. Alors là, on entre dans le dur, si vous me permettez cette expression quelque peu triviale, parce qu'on touche à la représentation de toutes les parties du canton. Une affaire très complexe, il faut choisir district, circonscription, sous-circonscription, sous-arrondissement, système biproportionnel, le fameux Puckelsheim que seuls les experts peuvent expliquer vraiment par le détail si vous préférez. Alors là aussi, les échanges sont nombreux. Le PDC a réclamé le maintien des sous-arrondissements électoraux, Appel Citoyen a évoqué des calculs d'épiciers tout en souhaitant l'abandon des districts au profit de 6 circonscriptions sans sous-circonscriptions, lesquelles sous-circonscriptions appartiennent bel et bien au passé et à l'histoire, mais dont il faut sortir, a lancé l'un des siens, Jean-François Lové. François Genoux, de valeur libérale radicale et ancien président de Sierre, a aussi plaidé de son côté pour les six circonscriptions sans sous-circonscription. On y avait, je vous le disais, c'est un peu compliqué. Bref, 6 régions avec pour tête de pont Monté, Martigny, Sion, Sierre, Liège et Brigue. Ce serait cohérent à estimer François Genoux, arguant du fait que le Valais disposerait ainsi de villes-centres avec chaque fois autour des zones industrielles, commerciales, agricoles, touristiques, avec aussi des vallées latérales. Une homogénéité qui est une force à soulever le Sierrois. Je l'ai dit, les discussions sont encore en cours. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions.
Merci beaucoup Yves Terrani, vous étiez en direct de Sion. De mémoire de vigneron, jamais une récolte n'aura été aussi faible. En Valais, l'interprofession de la vigne et du vin l'évalue à environ 50% d'une année normale. Le gel d'avril et le mildiou de l'été ont durement frappé le vignoble valaisan. Mais le raisin épargné affiche une santé et une qualité exceptionnelles. Les chiffres définitifs des vendanges 2021 seront connus en janvier prochain.
Un débat fleuve s'annonce au Grand Conseil cet après-midi.
Les députés vont en effet se pencher sur une nouvelle loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier. L'idée, fournir un texte plus actuel et débarrasser des défauts de la loi de 1969. Les explications de Joël Espy.
Impossible de passer en revue toutes les discussions dont a fait l'objet la réforme de cette loi sur le patrimoine culturel immobilier, tant les débats préliminaires ont été longs, techniques et surtout clivants. C'est à la suite de 2 motions et de 9 interpellations concernant le patrimoine bâti et les sites archéologiques qu'une commission s'est penchée sur cette réforme. Cette dernière consiste à compenser de nombreux défauts de la loi de 1969 et qui n'offre notamment pas une protection claire pour les constructions historiques. La partie archéologique s'occupera de clarifier notamment les conditions des fouilles préventives imposées aux propriétaires qui effectuent des travaux de terrassement. Et la loi sera divisée en 3 volets. Le patrimoine immobilier et immatériel, déjà sous le coup d'une nouvelle loi depuis 2014, le patrimoine bâti et le patrimoine paysager, qui concernent l'environnement d'un site d'intérêt, comme un château ou une maison.
Et cette répartition n'a pas été saluée par tous les milieux. Ce système a fait réagir des experts de tous bords, comme l'Union des communes vaudoises ou certains scientifiques. On retrouve Joël Espy.
Ce que soulève la commission, c'est un grand écart entre les milieux qui plébiscitent un système ultra léger et ceux qui désirent étoffer le dispositif pour, justement, s'assurer que les constructions soient classées et protégées. Entre les auditions, les débats et les amendements, ce ne sont pas moins de 50 heures de discussion qui ont été nécessaires pour accoucher de cette loi qui sera discutée cet après-midi. Comptez 82 pages de rapport pour la commission, autant de pages pour l'exposé des motifs du Conseil d'État, et vous pouvez vous imaginer l'étendue de la tâche qui attend les députés. À titre d'exemple, on peut reprendre les fameuses fouilles archéologiques dans des projets de construction. Sur Vaud, celles-ci sont actuellement à la charge du propriétaire, quand bien même le sous-sol appartient au canton. Fait souligner, en Valais par exemple, le canton les finance jusqu'à hauteur de 40%. Et sur Fribourg, c'est le canton qui paye tout. Il faut ensuite que les subventions suivent afin de réaliser des études sur les objets découverts. Reste quantité de points à voir, article par article, le renforcement des mesures conservatoires, arrêt ou exécution de travaux par exemple, meilleur recensement des sites, le renforcement des objets inscrits à l'inventaire, la clarification des compétences entre le canton et les communes, etc., etc.
Et à cette loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier sera ajouté un projet de décret comprenant un fonds de 10 millions de francs pour les recherches. Un montant non reconductible, jugé donc insuffisant par certains élus.
Un budget moins rouge que prévu pour Vevey.
La municipalité a en effet présenté ses prévisions hier. Le déficit est loin des 11 millions qui avaient été prévus pour cette année. Avec 7,29 millions et 2,84 de marge d'autofinancement, la situation semble s'améliorer. En cause, une augmentation des recettes fiscales à laquelle l'exécutif ne s'attendait pas. Écoutez Yvan Lucarini, le syndic de Vevey.
C'est une bonne surprise dans le sens où il y avait une grosse incertitude qui est toujours un petit peu présente, mais de moins en moins avec les réformes d'imposition, RFFA et RIE 3 vaudoise. Et puis aujourd'hui, on sait en suivant les acomptes facturés, y compris sur l'année 2021, qu'on va plutôt dans une dynamique positive en récupérant ce qu'on avait perdu dans les comptes 2020. Donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle qui doit être toutefois consolidée définitivement de début 2023. Mais je suis assez confiant sur ce point. Et en plus, on a été plutôt prudent dans la bonne nouvelle pour pas trop se dire que c'était la fête déjà aujourd'hui. Donc des recettes en augmentation avec une évaluation prudente.
Autre soulagement, la compensation du canton vis-à-vis de la facture sociale. L'accord entre les communes vaudoises et le canton a déjà permis de diminuer les frais du côté de Vevey. Côté investissement, la ville présentera son plan complet en décembre. Mais une chose est sûre, l'immobilier de la commune en fera partie. Celle-ci aimerait augmenter le budget d'entretien de son parc locatif de 3,53 à 5,5 millions par an. Un investissement vertueux, explique Pascal Molia. Il est le municipal chargé des bâtiments et des gérances.
On est complètement dans la thématique de l'investissement productif, parce que investir dans l'entretien des bâtiments, c'est maintenir un niveau d'actif, c'est-à-dire maintenir une valeur au bilan qui existe. Donc ça veut dire qu'on ne perd pas d'argent. Et évidemment, quand on investit dans de l'assainissement énergétique, bien tout simplement on consomme moins d'énergie, donc on paye moins de factures d'énergie. Donc ça, évidemment, à la fin on gagne de l'argent. Et puis vous avez des valorisations des actifs. Par exemple, vous rénovez un immeuble, vous valorisez les combles, et bien vous avez un appartement de plus que vous pouvez louer, vous avez un revenu supplémentaire. Et ça, c'est une une valorisation et surtout un maintien aussi en premier lieu et ensuite une valorisation des revenus locatifs de la ville qui représentent actuellement un peu plus de 7 millions de revenus par année, ce qui correspond à 8 points d'impôts communaux. C'est-à-dire que si on laisse le patrimoine se détériorer et que les bâtiments deviennent insalubres, eh bien, il faudrait augmenter les impôts de 8 points pour arriver au même niveau qu'actuellement.
Le budget 2022 de Vevey sera déposé le 11 novembre et discuté dès le 2 décembre au Conseil communal, un sujet de Joël Espy.
Depuis plusieurs mois maintenant, la fontaine des marmottes de Zermatt est aux abonnés absents.
Cette œuvre réalisée et offerte à la commune valaisanne par le sculpteur suisse Édouard Marcel Sandeau avait sérieusement besoin d'un coup de polish. À force de travail mêlant différentes techniques comme le sablage, la soudure et autres ciselages, la fontaine est fin prête. Pendant près d'une année, elle sera restée entre les mains de Vincent Celotti, sculpteur veuvaisan. Mais pourquoi aller jusqu'à Vevey pour trouver la personne idéale? La réponse de Vincent Celotti.
Je pense qu'avec le temps, le bouche à oreille, et je suis un des rares sculpteurs à faire ce genre de travaux sur la totalité. Je fais des bronzes où je travaille tout depuis le modèle, le moule, la cire et la ciselure et les patines. Ce que la plupart des sculpteurs ne maîtrisent pas. C'est à force d'aller en fonderie et d'avoir des problèmes que j'ai fini par me sentir obligé de prendre toutes ces parties à ma charge. Du fait que c'est un métier qui a un peu disparu. Il n'y a plus de formation pour beaucoup de ces différents métiers qui sont en train de vraiment disparaître, quoi.
Donc ils se sont tournés vers vous parce que vous avez toute cette panel de compétences et aussi parce que vous aviez déjà l'expérience d'une sculpture sans dos.
Oui, j'avais déjà restauré une des sculptures à Sandeau, qui est une fontaine avec des escargots, où là, il y avait énormément, qui manquait des bibornes. Elle avait pris des coups de tondeuse à gazon, et aussi beaucoup d'usure, due aux caresses et à tout l'amour que les enfants portent à ce genre de pièces, quoi.
Vincent Celotti au micro de Quentin Frey. L'artiste sculpteur Édouard Marcel Sandeau a aussi réalisé d'autres œuvres en bronze à Vevey. La première chevauchée de Bacchus à Entre-deux-Villes et plus connue, les jeunes filles jouant sur des hippocampes au jardin du rivage.
Avec le changement d'heure et le raccourcissement des journées, l'automne est une saison idéale pour les cambrioleurs.
C'est pourquoi les polices cantonales romandes et du Tessin organisent aujourd'hui la 7e journée nationale de prévention contre les cambriolages. L'occasion de rappeler les bons réflexes pour éviter de recevoir une visite non désirée. Parmi les conseils principaux, simuler une présence par un minuteur ou la radio, fermer les portes à clé systématiquement ou encore informer vos voisins lors d'une absence prolongée. Côté statistique, le nombre de cambriolages a drastiquement diminué ces dernières années dans le canton de Vaud. Alors que 12 500 vols étaient recensés en 2012, ce chiffre a chuté à un peu plus de 3 500 en 2020, soit une baisse de 72%. La Confédération veut agir contre la perte d'attrait des centres urbains. Les transports liés à l'activité économique en ville étant en plein essor, des nuisances sonores, de la pollution et des systèmes routiers surchargés sont générés. Pour y remédier, la Confédération souhaite encourager l'innovation. Les effets des mesures de régulation dans les domaines du stationnement, du transbordement, de l'utilisation des routes et de l'autorisation d'accès aux zones devraient aussi être analysés. Des habitants de Cressier n'ont toujours pas retrouvé leur maison et ils ne devraient pas pouvoir le faire avant Noël au moins. Cela en raison des violentes inondations survenues le 22 juin dernier dans le canton de Neuchâtel. Intempéries qui avaient touché 70 habitations et détruit une trentaine de véhicules. Le canton de Neuchâtel a prévu un plan de 2 millions de francs pour d'importants travaux de remise en état.
Le niveau et la pérennité des rentes vieillesse sont la première préoccupation des Suisses.
Elles ont été exceptionnellement dépassées par le coronavirus l'an passé. Deux modèles s'opposent pour réformer la prévoyance vieillesse. Une majorité politique, les banques et les compagnies d'assurance incitent à renforcer l'épargne individuelle au travers du troisième pilier. L'Union syndicale suisse mène de son côté une croisade pour l'augmentation de l'AVS et prône une 13e rente annuelle. Elle a présenté aujourd'hui à Berne une étude dans laquelle elle compare les deux modèles. Les explications de notre correspondant. Correspondant à Berne, Serge Jubin.
Ces techniques complexes, et on a parfois l'impression de comparer des pommes et des poires, mais l'Union syndicale suisse fait la démonstration chiffrée que pour 90% de la population, le recours à l'AVS renforcé est préférable et surtout moins cher qu'à celui du troisième pilier, Gabriella Medici, première secrétaire adjointe de l'USS.
En ce moment, on sait que les rentes, elles sont trop basses. Pour en vivre, on vit une période où les banques et les assurances, ils font une vraie offensive pour augmenter et chercher la solution dans le troisième pilier. Nous, on voulait montré avec nos calculs que le contraire est le cas. Pour 90% de la population, miser sur le premier pilier pour renforcer les rentes, c'est avantageux.
L'Union syndicale suisse dit avoir pris en compte dans ses calculs tous les paramètres, et Dieu sait s'ils sont nombreux, complexes et imbriqués, et ça donne au final un chiffre phare, 400 000 francs. Un couple avec enfant sur l'entier de la carrière professionnelle économise 400 000 francs grâce au système de l'AVS. Gabriela Medici.
Si les personnes jeunes d'aujourd'hui, elles devraient cotiser tout seules pour avoir une prévoyance vieillesse, c'est ça qu'elles devraient payer en plus dans le troisième pilier.
La solution de l'Union syndicale suisse pour augmenter les rentes, sachant que celle du deuxième pilier diminue, verser une 13e rente AVS. Elle a déposé une initiative populaire et on votera dans une année certainement. Le débat est chaud car la majorité bourgeoise du Parlement mise sur l'épargne individuelle du troisième pilier. Une 13e rente AVS, qui va la financer? Eh bien, dit l'USS, même si elle devait l'être par une hausse des cotisations salariales paritaires, ce serait toujours beaucoup moins cher qu'une hausse de la contribution au troisième pilier.
Une 13e rente AVS, dans l'AVS, ça coûte 45 francs pour un salaire médian. Pour faire le même renforcement de la rente dans le troisième pilier, la même personne, elle devrait cotiser 150, voire 175 francs par mois supplémentaires.
L'étude de l'USS s'est inversée dans ce qui s'annonce comme le débat politique majeur des prochains mois en Suisse, comment garantir et peut-être renforcer les prestations vieillesse.
Merci Serge Jubin. Le procès d'un pilote de la patrouille suisse débutera le 22 novembre prochain à Saint-Gall. Les faits reprochés à l'aviateur remontent au 9 juin 2016. Lors d'un vol d'entraînement de la patrouille suisse aux Pays-Bas, deux avions Tiger F5 se sont percutés, l'un d'eux s'abîmant sérieusement. Le pilote fautif devra répondre devant la justice militaire des accusations d'utilisation abusive et dilapidation par négligence du matériel, d'entrave à la circulation publique par négligence et d'inobservation répétée des prescriptions de service par négligence.
La première journée de la COP26, hier à Glasgow, a été très intéressante.
Ce sont les mots de Francesco Rocca, le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, la FICR. Selon lui, les dirigeants semblent savoir désormais qu'il n'y a plus d'excuses pour ne pas œuvrer face au réchauffement climatique. Dans toutes ses rencontres à Glasgow, le président de la FICR va mettre l'accent sur l'aide à l'adaptation des pays en développement et des populations les plus vulnérables. Même si la communauté internationale arrive à s'entendre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2100, les effets se font déjà sentir dans certaines zones, a dit M. Rocca. Une attaque djihadiste a fait une dizaine de civils tués au Burkina Faso. Les terroristes faisaient vraisemblablement partie de l'État islamique au Grand Sahara, selon les responsables militaires. Des ratissages se font actuellement dans la zone de l'assassinat pour trouver 4 personnes encore portées disparues. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du Nord et de l'Est. Ces assauts ont fait plus de 2000 morts et contraint plus de 1,4 million de personnes à fuir leur foyer. 10 casques bleus égyptiens ont été blessés par des tirs de la garde présidentielle centrafricaine hier. Les Nations Unies ont qualifié cette attaque de délibérée et d'inqualifiable. Les 10 soldats de la paix n'étaient pas armés, à en croire le communiqué de l'ONU. Classé deuxième pays le moins développé au monde, la Centrafrique a été plongée dans une guerre civile sanglante après un coup d'État en 2013. En basket, Trois Torrents remporte le derby et poursuit sa route en Coupe de Suisse. Les Chorgues recevaient Helios samedi à la salle du Reposieux. Pour la deuxième fois de la saison, la rencontre a tourné à l'avantage de la formation chablaisienne. Elle s'est imposée 73-68 devant son public et sera donc au rendez-vous des quarts de finale. L'objectif est clair, tenter de soulever le trophée. Pour l'équipe valaisanne, la Coupe de Suisse est une échéance importante, notamment pour une raison simple. Les explications de Katia Clément, coach assistante du BBC Trois Torrents.
Sur un match, on peut battre n'importe qui, même Elfic. Et du coup, c'est l'intérêt de la Coupe et de la Coupe de la Ligue. C'est qu'il y a un moment donné, on est sur un match, pas sur une série. On peut être à égalité si on a de la réussite, si tout roule. Et c'est pour ça que c'est important. Puis en plus, c'est le match qui est télévisé. C'est le match où il y a le plus de suivi. Et du coup, c'est, que ce soit pour les étrangères ou pour les Suisses, c'est souvent ce qui amène aussi les plus grosses émotions.
Et si on regarde, jouer Helios dès les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, c'était presque un peu tôt quand même.
D'un côté, le côté sportif en moi, il dit de toute façon, si on veut aller en finale, il va falloir battre tout le monde, peu importe qui on joue. Avoir un match dur de plus, c'est aussi acquérir de l'expérience en plus. Après, du côté plutôt... personnel, je trouve que c'est dommage d'avoir une affiche comme ça à ce moment-là, parce qu'une affiche comme ça en demi-finale, bah, la salle elle est pleine. Et voilà, on perd un peu des spectateurs, je pense, sur le fait que ça arrive tôt dans la saison. Mais si on veut gagner, il faut battre tout le monde.
Katia Clément au micro de Lionel Pataroni. Le BBC 3 Torrents est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Son adversaire n'est pour l'heure pas encore connu. Sachez encore qu'en SB League Women, les Chorgues affronteront Puy samedi à 16h.
Martigny Basket reçoit la meilleure équipe du pays ce soir en Coupe de Suisse.
Pour le compte des 16e de finale, la formation octodurienne, pensionnaire de première ligue, défie Fribourg Olympique à la salle du Midi. Une rencontre de prestige pour l'effectif valaisan, mais qui s'annonce d'ores et déjà très compliquée sur le plan sportif. Une réalité dont on est conscient côté valaisan. Cette affiche va surtout permettre aux joueurs, mais aussi au public, de vivre un grand moment de basket. C'est en tout cas l'avis du coach Martin Urin, Michael Martinez.
Quand on a eu le tirage, je leur ai simplement dit que même moi, j'avais envie de mettre le maillot. Parce que quand on est joueur, là, on ne peut pas rêver mieux comme opposition. On a les meilleurs joueurs du pays. Donc, arriver à marquer un panier face à un joueur comme Couture, par exemple, bah, c'est sûr que c'est flatteur et ça fait vraiment travailler un petit peu la confiance du joueur. Après, c'est vrai que différemment du foot, nous, au basket, la différence physique va vraiment prendre le dessus. Donc, ça, c'est vraiment pas évident pour eux. Je ne sais pas trop comment ils vont réagir. On va tout faire au niveau du club pour que ça soit une fête, déjà. Donc, pour vraiment dans leur tête que ça soit une chance et qu'ils s'amusent. On va essayer qu'il y ait vraiment du monde à la salle, faire venir les petits, parce que pour les petits, c'est aussi une chance d'accueillir la meilleure équipe de Suisse. Donc, vraiment que ça soit une fête au niveau du club, et comme ça, les joueurs vont s'intégrer dans cette fête-là et vont aborder le match sans trop de frayeur, on va dire.
Vous, en tant que coach, comment vous abordez cette rencontre? Qu'est-ce que vous pensez mettre en place sur le plan tactique? Qu'est-ce qu'il en est?
Franchement, je ne vais pas mettre grand-chose en place exprès pour ce match-là. À l'heure actuelle, en championnat, on a besoin de victoire. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ce qu'on travaille régulièrement. Et la chance qu'on a, c'est qu'on ne pourra pas rêver mieux. Par exemple, sur un pick and roll, pour travailler notre défense sur le pick and roll, on ne pourra pas rêver mieux que ces joueurs-là et les réactions que vont avoir ces joueurs-là. Donc, non, je ne vais pas changer trop nos habitudes pour ne pas nous perturber, parce qu'on a quand même un match dimanche important qui arrive. Et on va essayer de baser sur nos acquis.
Martigny Basket reçoit donc Fribourg Olympique ce soir à la salle du Midi pour le compte des 16e de finale de la Coupe de Suisse. Coup d'envoi de cette rencontre à 17h30, un sujet réalisé par Ludovic Turin.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. Radio Chablais, la météo.
Belles éclaircies pour cet après-midi selon Météo Suisse, avec encore un petit risque d'averse à partir des portes du soleil, et puis à partir de ce soir et cette nuit, une nouvelle dégradation nous est annoncée, une dégradation qui va se poursuivre demain, puisque le matin le temps sera très nuageux avec des précipitations assez continues. La limite des chutes de neige se situera entre 1600 et 1200 mètres d'altitude. En seconde partie de journée demain, passage à un temps généralement sec en plaine avec de brèves éclaircies et une persistance d'un risque d'averse nous est annoncée en montagne. Pour aujourd'hui, les températures monteront jusqu'à 12 degrés en pleine, 7 à 1000 mètres et un tout petit degré à 2000 mètres. Pour demain, c'est de 6 à 10 degrés de prévu en pleine, de 2 à 5 à 1000 mètres et de moins 3 à 0 degré à 2000 mètres.